إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au chapitre 24, 25 dans certaines éditions du livre de l'unicité du Cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. L'intitulé du chapitre, des détails apportés sur certains types de sorcellerie. Le nom sorcellerie, il a un sens linguistique et il a un sens terminologique. Et le nom sorcellerie, il a une portée générale dans la langue arabe. Il englobe l'acte par lequel on recherche l'aide des démons, le fait de se rapprocher d'eux, de les adorer afin qu'ils se mettent au service du sorcier. Il englobe aussi d'autres significations que le législateur considère comme de la sorcellerie, même si ce n'est pas le sens terminologique qui en est voulu. Et bien qu'elles ne correspondent pas à des formes réelles de sorcellerie, ne ressemblant pas à la catégorie précitée, ni dans leur essence, ni dans leur statut religieux. Il y a différents degrés de sorcellerie et savoir les distinguer les uns des autres est important. C'est pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité ce chapitre dans le but de différencier ces différents degrés. Puis le cheikh a cité Ahmed rahimahullah a dit Muhammad ibn Ja'far nous a conté que Auf leur a conté, d'après Hayyan ibn al-Ala, qui a dit, Qatan ibn Qabisa nous a conté, d'après son père, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-Iyafa al-Tarqu et al-Tiyara sont des manifestations du djibt. Auf a dit, Al-Iyafa consiste à effrayer les oiseaux, et al-tarq correspond à des traits que l'on trace au sol. Quant au djibt, al-Hassan a dit à ce sujet, il s'agit de l'inspiration de Shaytan. Ces propos ont été rapportés selon une bonne chaîne de rapporteurs, de même qu'ils ont été rapportés par Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Hibban dans son recueil de hadith authentique. Al-Iyafa, comme l'a expliqué ici dans le hadith, un des rapporteurs du hadith qui est Auf, consiste à effrayer les oiseaux et de les faire se déplacer afin d'observer leurs mouvements. Il s'agit donc de les faire se mouvoir en les apeurant, puis de déduire de cela l'augure, c'est-à-dire qu'ils regardent à travers les mouvements des oiseaux, leurs couleurs, le caractère louable ou blâmable d'un projet dans lequel ils veulent se lancer. Cela peut aussi consister à prévoir l'avenir à travers le comportement des oiseaux effrayés. Ceci est une forme de djibt, à savoir ici la sorcellerie. Pourquoi cela? Nous avons déjà expliqué que le djibt correspond à toute chose dans laquelle il n'y a pas de bien, toute chose vile et méprisée, qui éloigne l'individu de la vérité. Cette explication est une interprétation de Al-Iyafa. En outre, Al-Iyafa est un type d'influence qui influe sur la décision d'accomplissement d'un projet. C'est la raison pour laquelle on considère cela comme une forme de sorcellerie. Le terme Al-Tiyara est plus général que cela. En effet, selon l'avis de Auf, qui a donné une des significations du terme Al-Iyafa, qui est exclusivement lié aux oiseaux, alors que Tiyara est un nom comprenant tout ce qui engendre une quelconque forme de superstition positive ou négative.
Nous expliquerons cela dans un chapitre à part, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quant au tarq, c'est un nom désignant le traçage sur le sol d'un nombre incalculable de traits. Turuq. Le devin commence alors à les effacer un par un, puis deux à deux, de façon plus rapide, pour ensuite observer ce qu'il reste comme traits, et déduire de ces derniers que telle et telle chose arrivera. Ceci est une forme de voyance qui elle-même est une forme de sorcellerie. Quand Aouf a expliqué « tarq » par cette manière-là, ce n'est pas la seule manière. Il y avait une autre manière qui était utilisée aussi chez les Arabes, qui était le jet de pierre. C'est aussi du « tarq ». Mais il a expliqué « tarq » par une manière parmi les manières qui étaient répandues. Il dit ici « At-tarq correspond à des traits que l'on trace au sol. Quant au djibt, Al-Hassan a dit à son sujet, il s'agit de l'inspiration de Shaytan. Al-djibt est une sorte de sorcellerie, car Shaytan y invite les gens par sa voix et par ses cris. C'est-à-dire, il les incite à cela. Et Shaytan, tellement il a été triste du sort qui l'a touché, du fait qu'il s'est enorgueilli et qu'il est voué à l'enfer, alors il a voulu se venger contre les fils d'Adam, en les appelant à la sorcellerie et à tout type de sorcellerie. Et c'est ce qui est cité aussi dans Sourate al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ils ont suivi ce que les satans inventaient sur la royauté de Suleyman, alayhi salam, dans le sens des versets. Donc c'est dans le même sens, c'est-à-dire que Shaytan, avec sa voix, et du fait qu'il a été triste d'être rejeté, il encourage les gens à la sorcellerie pour que ce soit la cause de leur perdition. Puis le cheikh a cité Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque emprunte une des voies de l'astrologie a emprunté une des voies de la sorcellerie, la part de cette dernière augmentant proportionnellement à celle de la première. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de rapporteurs authentiques. Dans ce hadith, il est énoncé clairement qu'apprendre l'astrologie revient à apprendre la sorcellerie. Tout ceci sera détaillé dans un chapitre consacré aux différents types de sciences liées aux étoiles et aux raisons pour lesquelles les étoiles ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a cité An-Nasa'i rahimahullah rapporte d'après le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait un nœud, puis souffle dessus à pratiquer la sorcellerie. Et quiconque pratique la sorcellerie a commis un acte de polythéisme. Et quiconque s'attache à une chose, y sera voué. Ce hadith, il a été rapporté par une chaîne de transmission faible. Au sahih, c'est que
c'est un hadith mursal de l'Hassan al-Basri, rahimahullah.
Wallahu a'lam. Donc, dans cette parole, le souffle cité est celui accompagné d'une demande de protection ou d'aide aux démons, et accompagné de paroles qui, lorsqu'on les récite, permettent aux djinns de se manifester et de servir ce nœud sorcier. Tout souffle sur un nœud ne correspond donc pas nécessairement à de la sorcellerie, parce que le djinn se met au service de cette sorcellerie, donc il a pratiqué en faisant cela de la sorcellerie. Dès que l'on souffle sur le nœud, le djinn se met au service de cette sorcellerie, quand bien sûr il y a des incantations et des appels aux démons dans ce souffle. L'intérêt du souffle sur le nœud chez les sorciers réside dans le fait qu'aussi longtemps que le nœud restera noué, le sort ne sera pas conjuré. Dès lors, le dessein auquel aspire le sorcier se réalise par deux choses, le nœud et le souffle. Parmi les choses qu'il est important de savoir à ce sujet, il y a que le fait que parfois les nœuds ne sont pas clairement visibles tellement ils sont minuscules. Mais le moyen, alhamdulillah, de se soigner et de dénouer ce nœud-là, c'est ou bien de trouver la sorcellerie et de la détruire, ou bien de se faire ruqyah, de se réciter le Coran et invoquer Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala défaira ce nœud par sa puissance et annulera cette sorcellerie. Et quand il a dit, et quiconque pratique la sorcellerie a commis un acte de polythéisme, ceci est une affirmation générale. Et quiconque s'attache à une chose, y sera livré. Quiconque s'attache à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah lui suffit. Et si le serviteur s'attache à autre qu'Allah, il sera voué à celui-ci ou à ce à quoi il s'est attaché. Tout être autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est indigent et a besoin de lui. Et Allah est le détenteur du bienfait et de la grâce. Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, dit, « Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. » Ô vous les hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Puis le cheikh a rapporté, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Voulez-vous que je vous renseigne sur l'adr ? Il s'agit du colportage, ou en d'autres termes, propager des propos entre les gens, rapporté par Muslim. Al-adr, dans la langue arabe, désigne plusieurs choses, dont la sorcellerie. Pourquoi ici le colportage a été nommé sorcellerie? Et quelle est la ressemblance entre le colportage et la sorcellerie? Ici, c'est le premier exemple parmi les types de sorcellerie qui sont nommés comme tels dans la langue arabe ou bien désignés comme tels dans la législation, mais qui ne sont pas de la sorcellerie réelle dans le même type de sorcellerie qui est du shirk, du polythéisme majeur, que nous avons cité dans le chapitre précédent et qui sont cités dans les hadiths que nous avons cités auparavant. Mais du fait qu'il y a une ressemblance dans les effets et dans l'influence qu'a la sorcellerie, ainsi que les effets et que l'influence qu'a le colportage en engendrant l'animosité et la séparation entre deux êtres aimés, ou bien la réconciliation de deux êtres séparés, et l'influence qu'il a sur les cœurs, c'est pour cela que le colportage a été considéré comme de la sorcellerie, car il a les mêmes effets que la sorcellerie. Il est là pour corrompre la relation entre les gens, pour séparer les gens. Il est là aussi pour transmettre la corruption et le mal. Alors, il est comme la sorcellerie qui est un moyen caché de rompre les liens et de séparer les gens. Alors, de même, le colporteur qui se cache pour colporter et rapporter des paroles et des choses qui séparent entre les gens. Ce qui prouve la gravité du colportage qui est un grand péché et qui est considéré comme de la sorcellerie dans ce sens-là, pas dans le sens que c'est du polythéisme majeur. Puis le cheikh a rapporté que Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Ibn Omar radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certains discours sont d'une éloquence tenant de la sorcellerie. » Effectivement, l'éloquence, quand elle est utilisée pour des mauvaises fins, pour embellir le faux, alors elle est comme la sorcellerie. Elle est comme la sorcellerie. C'est cette éloquence dans laquelle il y a un moyen d'envoûter l'ouïe et les cœurs, jusqu'à même les ensorceler, et faire paraître le faux comme du vrai, et le vrai comme du faux. L'éloquence en elle-même n'est pas blâmable quand elle est utilisée à bon escient, mais elle est blâmable quand la personne l'utilise pour défendre ce qui n'est pas défendable, ou pour embellir le faux et enlaidir la vérité. Et subhanallah, combien sont les sorciers qui ensorcellent les gens avec leurs paroles aujourd'hui? Combien de gens qui utilisent leur éloquence pour embellir le faux et tromper les gens? Et combien de fois nous avons dit et mis en garde contre ces personnes qui parlent au nom de l'islam? Et nous avons expliqué qu'une ambiguïté, pourquoi on dit de s'éloigner des ambiguïtés? C'est-à-dire qu'elle est ambiguë du fait qu'elle ressemble à la vérité, qu'il y a une part dedans qui peut être vraie. Et c'est pour cela qu'elle trompe les faibles d'esprit et les faibles en science. D'ailleurs, si le faux n'était pas caché par une enveloppe de vérité, personne ne l'accepterait. Alors on trouvera les imams de l'égarement qui embellissent leur égarement par de belles intentions, par de belles paroles, par certaines généralités qui peuvent être vraies, pour cacher à l'intérieur un poison mortel qui tue les cœurs et qui mène les gens vers l'enfer. Voilà pourquoi il est nécessaire de prendre garde à tout hypocrite à la langue savante et de s'en tenir aux preuves claires en islam, aux preuves claires du Coran et de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, selon la compréhension et la pratique des pieux prédécesseurs qui ont été les gens les meilleurs, qui ont été élogés par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le meilleur siècle et les meilleures personnes qu'Allah a choisies pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les déteste et qui s'éloigne d'eux ne fait que détester l'islam et s'éloigner de l'islam.
Puis le cheikh a cité les points à retenir.
Premièrement, al-iyafa, al-tarq et al-tiyara sont une des manifestations du djibt. Deuxièmement, la signification des termes al-iyafa, al-tarq et al-tiyara. Troisièmement, l'astrologie est une forme de sorcellerie. Quatrièmement, il en est de même pour les nœuds sur lesquels on souffle. Cinquièmement, il en est de même pour le colportage, comme on a dit auparavant, c'est-à-dire que c'est de la sorcellerie dans le sens linguistique et dans ce que la législation en a considéré, mais qui n'est pas de la même catégorie que la sorcellerie qui est du polythéisme. Sixièmement, et pour certains discours éloquents, de même les discours éloquents par lesquels on embellit le faux et on enlaidit le vrai, est un type de sorcellerie. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم